7, cours de Raveman, Shirashirim, au centre Montevideo.
Mot à mot. Al-Mishkari Valelot. Sur ma couche, balélot, dans les nuits, bikashti, j'ai recherché etchea vanafshi, celui que mon âme a aimé, bikashtiv, je l'ai recherché, velometsativ, je ne l'ai pas trouvé. Alors, ça c'est la traduction littérale du verset. Encore une fois, Al Mishkavi Balelot, sur ma couche, sur mon lit la nuit, pendant les nuits, Bikashti et Chahava Nafshi, j'ai recherché celui que mon âme aime. Bikashtiv velo metsativ. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Rashi lui, al mishkavi balelot batzarli shiyashavti afela. Le midrash a différentes interprétations, mais il s'agit de la galoute en général. La première galoute dont on parle souvent dans Shirashirim, puisque on a parlé avant de la sortie d'Égypte, c'est après la faute du veau d'or, où Dieu a dit qu'il n'y aurait plus de colonne de nuée qui guiderait les Bnei Israël dans le désert. Ce ne serait plus la Shrina, la présence divine, qui conduirait le peuple, mais Ineni Sholeach Malachi le Fanecha, il y aura un envoyé, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, après Yoshua et ainsi de suite. Donc le premier exil, si on veut, Batsarli, la première difficulté, Rachidi Kol Shloshim Veshmone Shana chez Yisrael Nezufim, c'est pendant les 38 ans que les enfants d'Israël étaient repoussés dans le désert. Midrash dit qu'on parle de la galoute en général. Bikashti et Chava Nafshi, Bikashti Vlometsativ, je ne l'ai pas trouvé. En hébreu, le mot le vakesh c'est chercher, rechercher. Mais on le comprend mieux si on inverse le mot. Shavak. Qu'est-ce que ça veut dire shavak? On dit par exemple shavak chayim lechol chayim. Abandonner. Shavak en hébreu veut dire abandonner et bakesh veut dire s'attacher. Prendre pour soi. C'est ce qu'on appelle le bakesh. Le vakesh, c'est pas seulement rechercher quelque chose, mais le rechercher pour soi. Le laisser par devers soi, on dit le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire bikashtiv? Je l'ai recherché. On va essayer de comprendre les prochains versets. Et on va voir que ça fait appel à un problème général. Akumana, prenez le deuxième verset, Akumana, j'ai décidé de me lever, va sauve va baïr, et j'ai tourné dans la ville, bashvakim, sur les places des marchés, ou baouchovot, dans les rues, avaksha, j'ai recherché, etcheava nafshi, celui que mon âme aime, Bikashtiv Velo Metsativ. De nouveau, je l'ai recherché, Velo Metsativ, je ne l'ai pas trouvé. Metsaoun et Hachamrim m'ont trouvé à Hachamrim les gardiens, à Sovevim Bahir, ceux qui font le tour de la ville, et Shahava Nafshi Reitem, celui que mon âme aime Reitem, l'avez-vous vu? Kimat Shahavar Timem, d'un peu, Kimat, d'un peu, Me'at c'est le peu, Kimat, d'un peu. Shavar Timem, que je les ai dépassés. Ad Shematsati et Shava Nafshi, jusqu'à ce que j'ai trouvé et Shava Nafshi, celui que mon âme aime, Achaz Div, Lechoz en hébreu, Achaz, ça veut dire tenir. Achaz Div, je l'ai tenu. Velo Arpena. Arpena, ça veut dire je ne l'ai pas lâché, je ne l'ai pas laissé. Atche Evetiv, jusqu'à ce que je l'ai amené, El Bet Imi, dans la maison de ma mère, Vel Cheder Horati, et dans la chambre de ma conception. Si on veut traduire comme dit Rashi, Rashi dit ceci, Akumana va Sovva Bahir Bashvaki ou Baruchovok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait allusion aux différents problèmes qu'ont eu les enfants d'Israël dans le désert. L'affaire des explorateurs, l'affaire de ce qu'on appelle les Ma'apilim, ceux qui ont essayé de rentrer en Eretz Israël par force et qui ont été tués par l'ennemi. C'est ça ce que veut dire le verset. Asovev Bahir, c'est-à-dire je recherchais de toutes mes forces, je suis allé chercher là où il n'était pas, là où il aurait pu se trouver. Je n'ai pas trouvé. Metsaouni Hashomerim, j'ai trouvé les gardiens. Qui c'est les gardiens? Rachidi Moshe Vaharon. Kimat Shavar Timehem, je les ai presque dépassés, ça veut dire presque je ne me suis pas attaché à eux, alors que c'est ça ce qu'il fallait faire. Et à ce moment-là, j'ai trouvé Hachematzati et Shava Nafshi, j'ai pu rentrer en Eretz Israël. Achazdi Velor Pena, c'est que au moment de rentrer en Eretz Israël, je n'ai pas lâché. C'est-à-dire qu'on a amené le Mishkan, le sanctuaire, à Shiloh, et ensuite El Cheder Orati à Yerushalayim. Yerushalayim, ça s'appelle Cheder Orati, puisque le Beit HaMikdash est construit autour de l'endroit du Mizbeach, l'endroit de l'autel, où le Midrash dit, dans la Parashat Bereshit, que Adam Harishon, le premier homme, a été créé à partir de l'endroit du Mizbeach. C'était la terre de cet endroit-là, qui est dans le Beit HaMikdash à Yerushalayim. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une fin à la galoute, qu'il y a toujours un Moshe Aaron qui sont là pour conduire les Bnei Israël, et que Achaz Div Lo Arpena, si on s'y tient bien, on peut s'en sortir. Mais ça fait appel à un problème plus général. Vous savez qu'il y a un pasouk dans le prophète Zacharia, Zacharie, que l'on dit dans la Haggadah, Karev lanu yom, sheulo lo yom, velo laila. On va essayer de traduire. On dit dans la Haggadah, Karev lanu yom, amène-nous un jour, sheulo yom, qui ne sera ni jour, velo laila, ni nuit. Trouver un jour qui n'est ni jour ni nuit, c'est sûr que c'est une affaire considérable. Qu'on nous dise, amène-nous un jour extraordinaire. On parle de la venue du Mashiach, de la Triatanitine, de tout ce qu'on veut. Ok. Mais pourquoi dire qu'il est ni Yom, ni Laila? Qu'est-ce que ça peut te faire que ce jour comporte du jour et de la nuit? Le Maharal de Prague dit que ça fait appel à la première interrogation. La première interrogation, c'est que le premier jour est marqué Vayehi Or, il y a eu la lumière, et le verset se termine Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad, Erev, le soir, la nuit, Boker, le matin, le jour, Yom Echad, c'est le premier jour. Et après, jusqu'au septième jour, on verra toujours dans le début de la paracha de Bereshit, Vayehi Erev, d'abord le soir et ensuite le jour. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne nos données halakhiques à nous, dans le calendrier juif, la nuit précède toujours le jour. Mais finalement, c'est un problème. Pourquoi est-ce que la nuit précède le jour? Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit Karev lanu yom, shu lo yom velo lala, ni jour ni nuit, c'est pas seulement pour dire que le jour soit ni jour ni nuit, mais c'est un jour qui n'est pas classique. Lo yom velo laila, ça veut dire pas un jour qui est précédé de nuit. Qu'est-ce que ça peut te faire que le jour soit tellement précédé de nuit et tu voudrais arriver à un jour qui ne soit pas précédé de nuit? C'est que la démarche du Olam Hazeh, la démarche de ce monde-ci, c'est que le jour doit être précédé de la nuit, l'éclairage doit être précédé de l'obscurité, et la compréhension doit être précédée de la non-compréhension. Et à nous d'essayer de savoir pourquoi. Et en fin de compte, c'est tout ce dont on parle dans ces versets-là. Al-Mishkari Balelot, on est obligé de passer une période de nuit, ou Bikash Tietchav Alafi, je vais aller à la recherche, Kimach Avarti, j'ai presque loupé le coche, mais finalement, je suis arrivé. Pourquoi est-ce que ça doit toujours être précédé, on va dire pire que ça, la solution du problème doit être précédée d'un problème? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir l'inverse? Avoir la solution du problème et ne pas avoir de problème. Ça, c'est le problème général que pose les versets. Après, on verra les versets dans le détail. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le verset d'après, c'est encore pire. Le verset d'après parle, on va être obligé de les voir en même temps, bien que ça fasse beaucoup. Et un verset, « Mizot olam min hamidbar, me kuteret mor levona, mikol avkat rochel. » « Mizot olam min hamidbar », ça veut dire « Qui est celle-ci qui monte du désert ?» Le désert, c'est la solitude. Ça veut dire que lorsque on parle de jour et de nuit, on ne parle pas seulement de problème et de résolution du problème, on parle aussi de solitude dans le fait que la solitude est constructrice. Et là, on est obligé de savoir pourquoi. On va poser le problème carrément. On remarque, je n'ai pas lu dans le texte, mais les Forchimis disent, le Rambam, plusieurs disent que déjà Aristote avait soulevé le problème, qu'il n'y a pas de vérité qui puisse être établie avant qu'on ait un problème, et c'est cette vérité qui va résoudre le problème. Une vérité qui ne serait pas une trouvaille après le problème n'a pas le même sens qu'une vérité qui est trouvée après le fait d'avoir posé le problème. On va essayer de savoir pourquoi. Parce que c'est vrai et c'est pas vrai. D'abord, tout dépend des problèmes. Si on prend les problèmes simples, 2 et 2 font 4. 4, c'est vrai que c'est la résolution du problème. Combien font 2 et 2? Mais on peut très bien comprendre la notion de 4 et ensuite savoir que ça peut faire 3 plus 1, 2 plus 2, 0 plus 4. On n'est pas obligé, dans des cas comme ça, d'avoir un problème pour trouver une solution. Parce que la solution elle-même, elle n'est pas que la solution du problème. Elle est une vérité en soi. Et une chose qui est vérité en soi, bien, si, bien qu'elle me permette de solutionner le problème, elle n'est pas là pour la solution du problème. C'est ça, la vraie question. Puisque la vérité en soi n'est pas là pour solutionner le problème, elle existe en soi, pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas la découvrir si ça n'est pas en tant que solution de problème? Alors on devrait poser ceci. Si quelqu'un s'interroge un jour, qu'est-ce qu'il possède dans sa raison, dans son fonctionnement, et qui est à lui? Il verra que c'est très pauvre. Pourquoi? Parce que ça il l'a appris, ça il l'a appris, ça il l'a copié. Qu'est-ce qui vient de la personnelle? La plupart des comportements, c'est les comportements qu'on adapte à ce qu'on a trouvé. La plupart des raisonnements qu'on applique, on adapte selon ce qu'on a appris. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit vraiment originel à l'homme? D'abord, on est obligé de dire que oui, parce que les autres, celui qui me l'a appris, comment il l'a trouvé? Bon, il va me dire qu'il l'a trouvé avant, il va me dire que... Et c'est vrai que nous, on n'a pas ce problème-là, parce que Adam Harishon, pour nous, la différence du non-juif, c'était pas un singe, et que je puis concevoir qu'il possédait le tout, qu'il avait tout, c'était dans sa création qu'il est le tout, que nous, nous sommes, et comme ça on dit un petit peu dans la Kabbalah, que nous, nous sommes une partie d'Adam Harishon. Ça, je peux encore le comprendre. Mais il y a bien quelque chose qui vient de moi. Qu'est-ce qui vient de moi? Et là, on est obligé de dire que la seule chose qui vient de moi, c'est que j'ai établi des vérités en tant que solution à des problèmes qui me sont personnels. En soi, cette vérité-là, elle existe quelque part en tant que ma propre vérité. Je peux copier quelque chose, mais si je n'ai pas un besoin de copier et que ça ne m'est pas apparu la solution au moment où elle s'imposait, ce que j'ai copié, ça va être difficile de dire que ça m'appartient. Mais à partir du moment où c'est la solution à mon problème, j'ai eu la thèse, j'ai eu l'antithèse, et après je me suis dit, c'est vrai que cette solution-là, je l'ai trouvée déjà quelque part. Je ne l'ai peut-être pas inventée. Mais à partir du moment où elle vient solutionner le problème que j'ai, ça veut dire que je l'ai vérifié, moi, je lui enlève la notion qui peut être générale de vérité pour en faire mon propre outil. Pourquoi? Parce que dans la vérification que j'ai pu exercer moi-même, le fait que cette vérité puisse être annoncée, le fait que ce comportement puisse avoir été copié de quelque part, perd entièrement son origine pour être la solution de mon problème. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Encore une fois, c'est vrai que je copie les solutions chez les autres. C'est vrai que même les sensations, la plupart du temps, je les ai copiés. On m'a dit que c'était bon, alors c'est bon. Mais à partir du moment où je les ai vérifiés en tant que solution de problèmes qui sont les miens, que je n'ai pas copiés chez les autres, c'est là où est la solitude, c'est là où je suis seul. C'est que devant le problème, je suis seul. C'est pas l'autre qui m'a mis devant le problème. C'est vrai qu'on peut mettre les gens devant les problèmes, mais la plupart du temps, on en a assez avec ses propres problèmes. À partir du moment où j'adapte un comportement ou une idée ou une vérité qui vient de l'extérieur, c'est vrai, mais que je la vérifie moi, elle perd son sens général et elle prend l'odeur, elle prend le parfum, elle prend la couleur de ma vérité parce qu'elle a marché dans la solution de mes problèmes. Ça, c'est le sens bikashtiv, velo metzatif. S'il n'y a pas un moment où tu as une bakasha, tu as une demande, et que tu ne trouves pas, et c'est vrai que maintenant tu es obligé de faire de l'importation, C'est vrai que maintenant tu es obligé d'aller chercher vers l'extérieur quelque chose. Mais lorsque tu vas trouver, et qu'on pourrait te dire que c'est une vérité intrinsèque, elle perd le fait qu'elle est intrinsèque. Pourquoi ? Parce que maintenant je l'ai trouvée au moment où moi j'en avais besoin. Et ça, ça m'appartient. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique à moi. Ah tiens, Nélot, il a la même vérité, mais il l'a éprouvée à partir d'une autre demande, qui ne pouvait pas être la même que la mienne. Donc si quelqu'un vient et me dit, finalement, toutes les idées ont été déjà, non seulement dites, mais écrites par les anciens, à partir des Grecs, on n'a rien renouvelé, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que les mêmes mots, les mêmes idées, les mêmes vérités prennent une couleur différente à partir du moment où je m'en sers. Ça, c'est le sens de Vayi Erev, Vayi Boker. Il est impossible que quelqu'un acquiert un comportement, une idée, une subtilité dans sa façon d'aborder les choses et qu'il y soit propre, que ce soit sa chayout, que ce soit sa vie à lui, si le boker n'est pas précédé du erev. Dans ce monde-ci, il y aura toujours le boker et le erev. Viendra un monde, c'est ce qui est marqué dans le prophète, Sheulo yom velo laila. C'est un yom, tu pourras découvrir quelque chose, mais cette démarche-là, elle n'existera plus. On n'aura plus besoin de bikashtiv. Je suis obligé d'aller chercher pour pouvoir trouver. Parce que ce ne sera plus un problème de vie. Je n'aurai pas besoin pour ma vie ou ma survie ou ma conduite dans la vie que les choses m'appartiennent. Elles m'auront déjà appartenu d'une certaine manière, et à ce moment-là, je pourrais bénéficier d'autrui. C'est-à-dire que même vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, lorsque je sens qu'il m'apporte, lorsque je me dis tout vient d'Akadosh Baruch Hu, je dois remercier, je dois ceci, je dois cela, il en reste que je suis obligé de voir en quoi ça répond à un problème qui est le mien. Sinon, c'est des mots. Mais il y a pire que ça. On peut vivre sans vivre. On peut vivre, mais si on n'a pas goûté du Erev, la façon qu'on a de goûter du Boker, c'est une façon qui reste étrangère à l'homme. Donc il n'a pas d'acquis. S'il n'a pas d'acquis, il énonce des choses, mais qui n'ont aucune couleur personnelle. Elles n'ont aucune couleur personnelle, elles ne peuvent pas se refléter ni dans son comportement, ni dans sa manière personnelle de réagir. Maintenant pour ça, il va falloir ouvrir plusieurs parenthèses. Mais ça, on est obligé de se confronter à cette idée-là. Même Avraham Avinu, il est écrit dans le verset, Yahan Asher Ituoti, Bet Avi, dans la maison de mon père, on m'a trompé. Pourquoi ? Il a trouvé l'idolâtrie. Après, il est arrivé au monothéisme. Mais il a d'abord trouvé l'idolâtrie. Il n'aurait pas trouvé l'idolâtrie, il n'y aurait pas eu monothéisme. Ça veut dire que l'approche, même vers les choses les plus claires, doit être en tant que solution. Elle ne doit pas être en tant qu'idée qui ne vient pas pour résoudre un problème. Sinon, je n'ai pas de contact, moi, avec cette vérité. Cette idée-là, elle est écrite dans le Ramban, Nachmanide, dans la paracha de Bechukotai. Pourquoi ? Tout le monde connaît le début de la paracha de Bechukotai. Quel est le salaire de ce qui est marqué Im Bechukotai Telechou ? Si vous marchez dans mes voies, Vet Mitzvotai Tishmeru, vous respectez mes commandements. La grande récompense, c'est quoi ? Velotigal Nafshi Etrem. On va essayer de traduire. Lotigal. Goël, ça veut dire dégoûté. Ressentir sale. Le tigal nafshi etrem, ça veut dire je ne serai pas dégoûté par vous. Rashi traduit ça, Atayel etrem gan Eden. Je pourrais me promener avec vous dans le gan Eden. Ça c'est ce que Rashi traduit. Demande le Ramban. C'est bien, mais pourquoi on leur dit d'une façon négative? Lotigal nafshetrem. Vous ne me dégoûterez pas. C'est quoi ça? Vous ne me dégoûterez pas. Dit le Ramban que le tigal ici c'est Milachon Agala. Agala, c'est ce qu'on fait avant Pessah. La cachérisation des ustensiles, c'est de nettoyer les choses. Il traduit le tigal Nafietrem. Je ne serai pas obligé de vous nettoyer avant de pouvoir être avec vous. Ça, c'est la suprême récompense. Il n'y a pas de nettoyage à faire avant que ce soit propre. Il dit, mais la shonagala, qui nous chez Magi, il de Rotri. Il dit, veu sod misit la Torah. C'est un des secrets de la Torah. Et point, il ne veut pas en parler. Le secret, on ne le comprend pas exactement, parce qu'il est marqué là-bas Nafshi. Qu'est-ce que ça veut dire, Notigal Nafshi, ma personne? Qu'est-ce que c'est ce Nefesh qui a besoin de nettoyer les choses? Mais une chose on voit. Le processus qui est celui du nettoyage, c'est-à-dire il y a d'abord l'erreur, et ensuite la correction. Il y a d'abord la saleté, et ensuite la propreté. Il y a d'abord la nuit, et ensuite le jour. Ce processus-là, on n'en aura plus besoin. C'est ça ce qui a marqué. Vous aurez fait le travail par vous-même. Donc c'est négatif, mais pas dans le sens négatif. Ça veut dire, je ne saurai pas, et voilà votre récompense. C'est qu'il y a tout un processus qui sera nouveau. Il dit le Maharal, quel processus sera nouveau? Karev la nuyom, asheru lo yom velo laila. On n'a plus besoin de ce processus de yom velaila. Tu n'as pas besoin de nettoyer les choses et de les décrasser avant qu'apparaisse quelque chose. Ça apparaîtra tout seul. Maintenant, vous pouvez un petit peu, on peut comprendre un petit peu le sens de ce qui est marqué ici, Etche Ahava Nafshi. Et on va ouvrir une parenthèse. Vous savez que aimer, c'est un grand mot. Aimer en hébreu, ça se traduit par avoir de l'attention pour, avoir de la confiance envers. Ça se traduit par différentes attitudes. Mais Ahava Nafshi, mon âme, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit. C'est quelqu'un qui essaie de savoir qui il est. Nafshi. Pas des comportements. Il y a des gens que j'aime parce que c'est la mode d'aimer ça. Il y a des choses que j'aime parce que je calque un comportement. Mais ça ne fait pas référence à un besoin que j'avais. Ça n'est pas que quelqu'un qui aime quelque chose de beau, que c'est la solution d'un problème qu'il avait. Alors il peut aimer, mais ce n'est pas Ahava Nafshi. Il y a Ahava Nafshi, ma personne. Et il y a la Ahava tout court. On peut aimer des choses parce qu'on a été éduqué à les aimer. La mode vous éduque. Le comportement des autres vous éduque. Tout peut être un effet de mode. J'aime ça. Je ne peux plus me passer de ça. Pourquoi? Parce que... Mais est-ce que c'est vraiment moi qui ne peux pas me passer de ça? Chaque fois que ça vient d'une démarche... Nafshi, ça veut dire moi-même. Etche Ahava Nafshi, lorsqu'on parle d'Akadosh Baruch Hu, c'est ma relation, la mienne, pas la relation qu'on doit avoir avec le bon Dieu parce qu'il tape, il est dur, ou alors au contraire, c'est lui qui dépense, qui donne le salaire, c'est lui qui donne le bonheur, c'est lui. Ahava Nafshi, c'est la seule façon de résoudre ma bakasha, ma demande. Alors on va ouvrir une parenthèse. Qu'est-ce que c'est que cette demande? On a déjà dit, il est écrit dans la Gemara, dans le traité de Shabbat, parmi les choses, quatre choses, que le Bédin d'en haut va interroger l'homme. La dernière, c'est Sipita li Yeshua. Est-ce que Tsofé, Mitzvot, ça veut dire, guetter, le guetteur, Tsofé, c'est le guetteur. Tsipita, est-ce que tu as guetté Yeshua, la délivrance? Tout le monde veut la délivrance. Tout le monde veut la Goula. Tout le monde veut le Mashiach. Tout le monde veut tout ça. Mais est-ce qu'on le veut? Parce que c'est une bakasha. C'est quelque chose à quoi je suis accroché. Ou alors je le veux parce que tout le monde en a besoin, on m'a dit qu'on en a besoin. Alors moi aussi j'ai besoin. La preuve, chaque fois qu'on provoque des besoins chez moi, il suffit de voir un spot publicitaire. Alors j'ai besoin, on a besoin de tout. Mais est-ce que j'ai besoin de ça? Parce que Bikashtif. Parce que c'est une chose que j'ai recherchée. Là vient le grand problème. Un homme doit se sentir mal à l'aise dans la façon dont il est contraint de vivre, quelle qu'elle soit. Et c'est là où commence la difficulté. C'est que chacun, à cause des tsarot qu'on a chaque jour, on sait comment on serait à l'aise. Il suffirait qu'il n'y ait pas ça, 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 et qu'il y ait ça, ça et ça en plus, et je suis à l'aise. Mais en vérité, est-ce que je cherche quelque chose d'autre? Là vient le problème. Tsipita la Yeshua, la délivrance, n'a de sens que lorsqu'elle délivre quelqu'un. Si elle ne le délivre pas, elle n'a pas de sens. Ça va très loin, pourquoi? Parce qu'il est possible qu'un jour j'assiste à la Yeshua, mais qu'elle ne me délivre pas. Vous comprenez? C'est là où commence le problème. Qu'est-ce que c'est que cette bakasha? Il faut croire que la dimension spirituelle de l'homme est tellement étriquée lorsqu'il est obligé de subir les sensations qui sont celles du corps, puisqu'il n'a de façon de percevoir l'extérieur, donc percevoir Dieu, percevoir le monde qu'à travers ses sens, ça étrique tellement sa neshama qu'il a envie de s'en sortir à chaque instant. Alors on lui demande, si Pita Lujoa, tu avais envie d'en sortir. Pourquoi on n'a pas tellement envie d'en sortir? Finalement, qui c'est qui a envie de s'en sortir? Il y a ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont... Ceux-là ont envie de s'en sortir. Mais les autres, ils n'ont pas envie de s'en sortir. Il leur manque juste un petit peu, ça, ça et ça, et après tout revient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette bakasha n'existe pas, cette demande n'existe pas. Ça veut dire que moi, finalement, on m'a créé et je vis une vie qu'on m'a imposée. C'est comme si je dis, je vis sur ma vie. Mais moi-même, je ne demande rien. Et on serait tenté de le croire. Pourquoi? Parce qu'on m'a imposé la vie. Chaque fois que j'ai demandé quelque chose, parce qu'on m'a mis devant des situations, j'étais obligé, manger, boire, dormir. Un enfant, ça grandit. On lui crée des besoins, et puis... Mais lui, qu'est-ce qu'il demande? La seule façon de savoir qu'est-ce qu'on demande, c'est d'écarter les autres demandes qu'on a provoquées chez nous, ou qu'on a nous-mêmes provoquées, pour masquer cette vraie demande. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un a une demande de quelque chose de profond, et qu'il sent que c'est l'entreprise qui est difficile, il se crée une petite demande à côté qui le satisfait, et il a l'illusion de ne plus avoir la véritable demande. Nous passons notre vie à ça, à masquer la vraie demande par les fausses demandes. Il suffit de se détacher un petit peu des fausses demandes, et la vraie demande apparaît. Ça veut dire que nous devrions vivre dans une demande perpétuelle, mais qu'il soit nafshi, ava nafshi, qui vienne, pas de la demande extérieure, qui vienne de ma demande à moi, et chez ava nafshi. Ce que moi, au fond, que j'ai besoin. Pas ce que les autres m'ont dit que j'avais besoin. Pas ce que j'arrive à satisfaire et qui me donne l'illusion de résoudre mon besoin. Le vrai besoin. Il y a dans la paracha de la semaine dernière une allusion, il est écrit dans le Shla Kadosh, le Shnei Luchot Abrit. C'est un livre, entre autres, de commentaires sur la Torah. Il est écrit qu'un homme doit toujours avoir en tête un verset. Esh tamid tukad ala misbeach lo tirbe. On essaie de traduire. Esh tamid, un feu éternel, tukad ala misbeach, sera allumé sur l'autel, lo tirbe, tu n'as pas le droit de l'éteindre. Chacun doit avoir en soi ce Esh Tamid. Ça veut dire ce feu qui n'est pas là pour dévorer les choses, mais qui est là pour entretenir les choses. Et il doit se demander à chaque instant où est passé ce Esh Tamid. Ce qui est important, dit le Shla, c'est chez l'Otirbe. Il ne s'éteint jamais seul. C'est toi qui l'éteins. Il faut faire attention de ne pas l'éteindre. Chacun, à un certain moment, ou de sa journée ou de sa vie, a un besoin d'autre chose. Ça, il faut savoir ne pas l'éteindre. Ouvrons une parenthèse. D'où vient le mot Goy ? Goy, ça veut dire le peuple ou le non-juif. Pourquoi on parle du non-juif quand on parle du Goy ? Parce que Goy veut dire peuple. Le peuple juif aussi s'appelle Goy. Goy, Echad Baaretz, un peuple. Pourquoi en parlant du non-juif, on parle du Goy ? Parce qu'ils sont plus nombreux, il y en a plus. Alors, si déjà on parle peuple, sur, même s'il y en a, je ne sais pas combien aujourd'hui, disons qu'il y en a originellement 70, tu as 69 chances de tomber sur l'autre que toi. Alors on appelle Goy l'autre. C'est tout. Mais pourquoi il s'appelle Goy ? Pourquoi le peuple s'appelle Goy ? Goy vient du mot Gevia. Gevia, c'est le même mot que Gouf, ça veut dire le corps. On demande à un non-juif de faire ce que son corps lui demande. On ne lui demande pas d'avoir un autre besoin que ça. Si vous prenez les 7 mitzvot de Noir, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit respecter le bon Dieu, il doit respecter les hommes, il doit respecter les animaux, il doit respecter les lois, il doit respecter la propriété d'autrui, c'est tout. Le respect des choses, tout ce qu'on demande. Vie, fais ce que tu veux, respecte. Si tu as ce respect-là, ça suffit. On ne lui demande pas de recherche. On ne lui demande pas de mitzvot qui dépendent de la marchava, qui dépendent de la personne. On lui demande les mitzvot qui dépendent du gouffre. Le juif, on lui demande autre chose. Prenez un exemple. Dans la paracha de la semaine dernière, on a vu le non-juif ne permet qu'un seul corban, un seul sacrifice. Le sacrifice de Ola. Pourquoi ? Parce qu'il ne doit pas concevoir que lorsqu'on s'approche du Beth Amikdash, il y a quelque chose qui soit consommable par l'homme. Le sacrifice de Ola, c'est ce qui est entièrement consumé. L'homme n'en a pas de part. Ou c'est Kodesh, ou c'est Chol. On ne te demande pas de mettre du Kodesh dans le Chol. Aux Juifs, on lui demande chaque sacrifice, à part le sacrifice de Ola, il faut manger une partie. Le Kodesh et le Chol, ça va pouvoir vivre ensemble. Le non-juif, on ne lui demande pas ça. Non seulement on ne lui demande pas ça, mais il n'a jamais voulu envisager ça. Peut-être parce qu'on ne lui a pas demandé, justement. Le juif, lorsqu'il amène un sacrifice de Ola, c'est dans un seul cas. Al-Irur et Alev. Irur et Alev, c'est pas qu'il a fait une erreur. C'est pas qu'il a fait ce qu'on appelle une avéra. Il n'a pas transgressé quoi que ce soit. Mais Irur et Alev, il en a eu envie. On a beaucoup d'envie que la vie, Baruch HaShem, ne nous permet pas de satisfaire. On n'a pas fait exprès, mais on ne l'a pas fait, finalement. On ne l'a pas fait, pourquoi? Parce que souvent, l'autre ne s'y prête pas. La vie ne s'y prête pas. Le bon Dieu ne s'y prête pas. On peut envisager tout ce qu'on veut. On n'a pas fait, on n'a pas fait. On aurait très bien pu faire, on n'a pas fait. On a eu de la chance. Comment est-ce qu'on a une capara? Comment est-ce que on va s'en sortir net vis-à-vis de ça? Alors tu amènes un korban ola. Pourquoi? Parce que le korban ola, il est entièrement consumé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même des choses qui ne transparaissent pas dans l'action, elles doivent quand même être pures. La machashava, la pensée de l'homme, elle doit être pure. À part ça, chaque korban, chaque sacrifice, l'homme est obligé d'en manger aussi. Pourquoi? Parce que on ne parle pas seulement de la marchava, on parle aussi de l'action. Lorsqu'il ne s'agit que de la marchava, on amène le korban ola, il est entièrement consumé. Chez le non-juif, c'est une notion qui n'existe pas, de pouvoir mêler les deux ensemble. Lui, si c'est Kodesh, eh bien c'est Kodesh. Ça, c'est le sens de Etcha Ahava Nafshi. Ça veut dire qu'un jour, un homme doit déterminer au fond qu'est-ce qu'il veut. Au fond, de quoi il est demandeur. Et il verra que lorsqu'il enlèvera toutes les demandes qui ont été créées par les autres ou par la vie elle-même, et qu'il copie, qu'il peut arriver tout doucement à la vraie demande. Ça, c'est ce qu'on appelle chez Ahava Nafshi. Et la vraie demande, souvent, elle est tout à fait autre. Elle est tellement autre que j'ai lu, il n'y a pas longtemps, dans un article, dans un journal, qu'il y a de plus en plus de gens qui ont pignon sur rue avec un nouveau métier. Ils vous font changer de vie. C'est-à-dire qu'on va chez eux, on paye une certaine somme, on reçoit un nouveau passeport, une nouvelle destination, ni vu ni connu, on peut changer. Dans cet article-là, ils écrivaient qu'on ne parle pas du malfrat ou du celui qui a les ennuis avec tout le monde. C'est des gens très bien, qui ont l'air tout à fait heureux. Et puis un jour, ils disparaissent dans la nature, on va classer leur dossier, ils sont quelque part d'autre, ils ont voulu changer de vie. Et on est étonné de voir qu'ils ne demandent pas les paradis genre casino, Las Vegas, pas du tout. C'est pas du tout. C'est des gens qui veulent aller au Tibet, c'est des gens qui veulent... D'où est-ce que ça vient un jour que quelqu'un, il quitte tout? Alors, il y a un, il y en avait une, et aujourd'hui, il y en a déjà des centaines dans le monde. Poussez la porte, vous pouvez changer de vie. D'où est-ce que ça vient? Il faut croire que les demandes de l'extérieur sont tellement fortes que quelqu'un a pu vivre pendant toute sa vie jusqu'à un certain âge où il n'a jamais satisfait une seule demande qui était personnelle. Il a toujours satisfait les demandes des autres. Et un jour, il s'aperçoit qu'il ne peut pas commencer à vivre. C'est ça ce qu'on appelle Etche Ahava Nafshi. Si ça se passe comme ça chez le non-juif, ça devrait se passer comme ça chez le juif. Mais je vous parie qu'il n'y a pas un juif qui va faire ça. Pourquoi? Parce que la notion de responsabilité est tellement forte chez le juif qu'il ne fera pas facilement une chose pareille. Il va abandonner femme, enfant, il se retrouve dans un truc. Il ne fera pas ça. ça ne veut pas dire que c'est positif. Ça veut dire que quoi? Une fois que tu as pris une responsabilité, il faut l'assumer. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de changer de vie pour pouvoir assumer. On peut vivre d'une autre façon. Et là, on va ouvrir encore une parenthèse. C'est qu'on s'approche de Pessah. Et la Haggadah nous demande la première condition dans le récit de la sortie d'Égypte, Matrilim Bignout ou Mesaimim Beshevar. Matril Bignout, il commence par raconter ce qui n'était pas honorable, ou Mesaim, il termine Beshevar par la louange. Ça s'exprime de deux façons. C'est une discussion dans la Gemara, et nous faisons comme les deux, comme Rav et comme Shmuel. Matril Bignout, c'est Avraham Avinu. Nos ancêtres étaient des idolâtres. On commence le récit de la sortie d'Égypte en disant Mitrila, Ovde, Avodazara, Iwavotenu. Nous étions des idolâtres. Varshav Kervanu Amakom Lavodato, et puis on s'est transformé et il a sorti d'Égypte. Mi, on commence Avadimayinu. On parle, on dit on était des esclaves, et ensuite on a été libérés. On ne doit pas commencer le récit de la sortie d'Égypte par la fin en disant on a été libéré parce qu'on était esclave, parce que. On doit commencer comme ça et on va terminer comme ça. C'est exactement ce que nous avons dit. Si tu n'as pas de problème, alors même la liberté ne résout rien. Parce que tu n'as pas demandé à être libre. Si tu n'as pas demandé à être libre, à quoi te sert la liberté? D'abord, il faut comprendre en quoi l'esclavage te pèse, en quoi c'était difficile, en quoi tu as un besoin de liberté, et après la liberté veut dire quelque chose. Mais ça va beaucoup plus loin encore. On va essayer d'expliquer ça simplement. Vous savez que dans la Torah, 70 facettes, ça veut dire que le même ordre de la Torah a 70 résurgences qui viennent du même ordre et dont l'un n'exclut pas l'autre. Il y a même peut-être pas une 49 façons de comprendre la halakha. On appelle ça les mêmes têtes Sha'aribina, les 49 portes de la compréhension. Moshe Rabbeinu, au Mont Sinaï, on lui a donné 49 façons de savoir si une chose est permise ou interdite, pure ou impure. Ok. Et il y a 4 façons d'interprétation de la Torah. Les 4 façons, c'est le mot pardes, le pshat, l'interprétation littérale, le reish c'est un remez, l'allusion, le dalot c'est le drash, le drush, interprétation, et le sod, ce qu'on appelle le secret. Ces interprétations, nous, si on nous dit quelle est la différence entre le pshat et le sod, quelle est la différence entre ce qui est révélé et ce qui est secret, c'est qu'au fond, c'est la même chose, mais un c'est dit sous le manteau et l'autre c'est dit lentement. Comment comprendre un secret? Ben, par le pshat, il faut que je comprenne ce que ça veut dire. C'est comme ça que nous, on comprend. Comme ça qu'en français on dirait, la différence entre ce qui est secret et ce qui n'est pas, c'est que c'est la même chose, la compréhension est la même, mais le dévoilement est différent. Dans le langage des Chachamim, lorsque l'on parle du sod et du pshat, c'est pas du tout ça. Le sod ne veut pas du tout dire la même chose que le pshat. Mais il peut exister en même temps que le pshat, mais à des niveaux différents. Le Maharal de Prague donne un exemple typique. Lorsque la fille de Pharaon a sorti Moshe Rabbeinu des eaux, il y a marqué Naharotea, ses servantes, Olchot alayor, elles vont devant le fleuve ou au-dessus du fleuve. Le Midrash dit Olchot, c'est Minachon, Oler Kol Haaretz. Elles vont à leur mort. Olchot, elles s'en vont. L'aller est en hébreu, ça peut vouloir dire aller vers, et ça peut vouloir dire s'en aller. Il est en vérité, elles se sont opposées à la fille de Pharaon. Elles n'ont pas voulu qu'elles sortent au Shirabelou. Elles ont dit ça, c'est Mialdea Ivrim. Ça fait partie de ces enfants qui ont été jetés au fleuve. Il faut les laisser mourir. Donc elles ont été condamnées à mort par la pile de Pharaon. Et on n'entend plus parler d'elles. Chez nous dans le verset marqué Olchot alayor, elles marchent sur le fleuve. Demande au Maharal, si le Midrash a raison, pourquoi il n'y a pas marqué l'histoire? C'est encore un piment dans l'histoire. Il y a une opposition, c'est pas simplement qu'elle a sorti Moshe Rabbeinu, une affaire politique. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? Il dit parce que la mort dont on parle ici, c'est pas que celui qui les voyait pouvait voir qu'elles allaient vers la mort. Il dit on parle de la mita ruchanit. On peut exclure quelqu'un de la vie, exclure quelqu'un de la société, exclure quelqu'un de l'histoire. Il est tout à fait vivant si on parle en termes de pshat. Si on parle en termes de drash, il est mort. Il est mort. Toi, tu verras pas tout de suite qu'il est mort. Mais il est mort. Hein, il va mourir comme ça, l'autre, il va mourir comme ça. Tu verras pas tout de suite qu'il y a une relation avec ça. Mais c'est déjà un exclu de l'histoire. Ça y est, il va vers son destin. Maintenant, si tu veux savoir ce qu'elles sont mortes, maintenant, Olchot alayor, non, elles marchaient. Elles étaient vivantes, mais au niveau du drach, elles étaient mortes. Voilà ce qu'explique le Gemara. Et comme ça, il explique le Gemara dans le traité de Tanit, où la Gemara nous dit, Yaakov avinu, Amar Rabbi Yochanan, Yaakov avinu lomet. Yaakov n'est pas mort. Amroulo, les Chachamim lui ont dit, Valou, Sabdou, Sabdaya, Khantu, Khantaya, Kavu, Kavaya. Il est marqué dans la Torah qu'on a embaumé. C'est difficile d'embaumer un vivant. Sabdou, Sabdaya, on lui a fait son éloge mortuaire. Il n'était pas assis sur le fauteuil en train d'écouter. Kavu, Kavaya, on l'a enterré. Tout ça pour un vivant. Amarlem, la Gemara leur a répondu. Mikra Anidoresh. J'interprète un verset. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le prophète? Altirav dit Yaakov, n'aie pas peur. Pourquoi je te ramenais Vet Zaracha et ta descendance, Meretsoyev, du pays de l'ennemi. Maoubachaim, Mazarobachaim, Afoubachaim. Il est marqué toi et ta descendance, de même que ta descendance est vivante, toi aussi tu es vivant. Le prophète s'adresse à Yaakov et à sa descendance. On s'adresse aux deux, c'est que les deux sont vivants. On ne s'adresse pas à un mort et à un vivant. Ok, très bien. Tu as fait une dracha, c'est au niveau du drach. Troisième interprétation de la Torah. Et pourtant, on m'a posé une question. D'un côté, tu me dis qu'elle est vivante. Je t'ai posé une question. Tu sais embaumer en vivant? Tu sais enterrer un vivant? Et s'il était vivant avant l'enterrement, quelques jours après l'enterrement, hein, soit bizarre qu'ils soient encore vivants. Dit le Maharal, si vous regardez bien la Gemara, vous allez comprendre qu'il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que lorsque les Racham nous ont demandé, est-ce que c'est pour rien que Khamtu Khamtaï, on l'a embaumé, on l'a enterré, on l'a. Il a répondu, Mikra Ani Doresh. Si vous venez au niveau du Pshat, alors vous avez raison. Et moi, je suis au niveau du Drash, de la Drasha. C'est un autre niveau. À moi de comprendre qu'au niveau du Pshat, Yaakov Avinu est mort, et au niveau du Drash, Yaakov Avinu est vivant. Très bien, c'est difficile de comprendre ça. On va essayer de comprendre. normalement en français quand on dit au niveau, c'est que c'est une expression à la mode, ce niveau, c'est-à-dire qu'on occulte toute une partie et puis on essaie juste de parler de la partie qui nous intéresse. Lorsqu'on parle de niveau ici, c'est pas du tout la même chose. On va donner un exemple. Dans la paracha de Bechukotai, les klalot, les malédictions se terminent. Vezacharti et briti Yaakov. Et je me rappellerai de l'alliance de Yaakov. Rashi dit, cinq endroits dans la Torah. Yaakov se marque avec un vav entre le kouf et le bet. Et tous les autres endroits de la Torah, ils se marquent sans le vav. Dans le Tanakh, Eliyahu, le prophète Eli. Dans tous les endroits, il se marque avec un vav. Et dans 53, 5 endroits, il est marqué sans vav. Dirachi, Natal Yaakov. Yaakov a pris un vav à Eliyahu. Engage qu'un jour, ils viennent, et c'est lui qui fera revivre les morts. Veishi vle vavot al banim, vle banim al avotam. On va essayer d'expliquer. On le dit tous les mots de Saï Shabbat. Veishi vle vavot al banim. Et il ramènera les cœurs banim des fils vers leur père et des pères vers leur fils. Vous avez tout de suite compris que ramener les cœurs des fils vers leur père, c'est pas un problème de couscous boué tout comme par-ci. C'est un problème. Si on dit que d'abord, quand on lit simplement le Rashi, ça a l'air un truc mnémotechnique. Tu as pris 5 vaves, c'est 5 vaves de garantie, ça a l'air bizarre. Ça, c'est la façon d'expression des Chacham. Qu'est-ce que c'est que cette garantie? C'est une garantie, prendre le vave en garantie, Eliyahu a perdu un vave, l'autre il a gagné un vave. On va essayer de comprendre. La fonction de Eliyahu Hanavi, elle est double. Lève Bani Malavot et la résurrection des morts. Tout le monde a bien compris que Veishiv lève Bani Malavot, les Banim, les enfants et les Avot. On ne parle pas des Avot qui sont vivants, des pères qui sont vivants, on parle des pères qui sont morts. Ça veut dire que il va faire exister les morts et les vivants ensemble. Yaakov Avinu, c'est le seul où au niveau du Pshat, il est vivant, il est mort, et au niveau du Drash, il est Eliyahu Hanavi, au niveau du Pshat, il est vivant. Pourquoi? Il est marqué Eliyahu Ala de Sahara Shamaïma. Eliyahu Hanavi, c'est celui qui n'a jamais goûté le tam de la mort. Il est vivant au niveau du Pshat. Maintenant, on va essayer de comprendre le Rashi. Yaakov est vivant au niveau du Drash, au niveau de la compréhension des choses. Mais il faut qu'un jour cette compréhension des choses, elle se traduise dans une réalité. Quelle est la garantie de cette réalité? C'est Eliyahu Hanavi. C'est qu'un jour, le mort et le vivant, ils arriveront à vivre ensemble. Parce que pourquoi les pères et les fils ne peuvent pas vivre ensemble? Parce que les uns sont morts et les autres sont vivants. Et pourtant, ils vivent ensemble. Non seulement ils vivent ensemble, mais tous les enfants sont obligés de vivre avec les pères, bien que tous ces pères-là soient morts. Et c'est une difficulté qui nous est difficilement concevable. C'est une réalité plutôt qui est difficilement concevable. On en sent juste le poids de la difficulté. C'est-à-dire, je porte un poids de gens qui ne sont pas là et j'aimerais bien un jour leur demander des comptes et de voir de quel produit je suis. Pire que ça, vous savez que la responsabilité du peuple juif est telle qu'on voit le peuple juif dans sa globalité en ce qui concerne les responsabilités. C'est ça qu'on dit que s'il y a un mort dans le peuple juif, le Bédim doit venir. Il y a une cérémonie qui s'appelle la Egla Rufa, la vache que l'on tue sur le lieu du crime. Et le Bédim, les anciens de la ville, doivent dire Kaper le Amcha Israël, pardonne au peuple juif, Asher Padita, que tu as racheté d'où d'Égypte. Les morts ont besoin de pardon jusqu'à la sortie d'Égypte. Si un juif assassin dans le peuple juif, on va aller demander des comptes jusqu'à ceux qui sont sortis de la sortie d'Égypte. Parce que l'histoire, elle n'est pas écrite simplement par la génération de là où se trouvait l'assassin, elle a été écrite par les autres. Et s'il y a une possibilité d'assassin chez un juif, c'est que la responsabilité, elle remonte, ou elle peut remonter jusqu'à la sortie d'Égypte. Ça veut dire que la graine n'a que les gènes qui ont été produits par les arbres ou par les fruits qui lui sont antérieurs. Lorsqu'a marqué Yaakov Avinu, Vezachanti et Briti, je me rappellerai de l'alliance avec Yaakov Avinu, ça veut dire que nous avons une difficulté de comprendre que Yaakov Avinu est vivant. Pourquoi ? Parce qu'il est mort, évidemment. Et chez nous, mort veut dire mort, et vivant veut dire vivant. Mais il y a une dimension où lorsque quelqu'un réfléchit et est obligé de savoir qui il est, il va voir que ces morts-là, en vérité, sont vivants en lui, dans beaucoup plus de domaines qu'il ne s'imagine. Qu'il est obligé de faire tout un travail pour voir en quoi il est redevable, dans le bien comme dans le mauvais, et en quoi il peut faire éclore une personnalité de tout un tas de morts qui sont antérieurs à lui et qui sont vivants. Ils sont extrêmement vivants, ils ne sont pas vivants au niveau du pshat, au niveau où ils vont l'embêter dans sa vie de tous les jours. Mais ils sont vivants au niveau de ce que lui vit. Yaakov Avinu, on lui a dit qu'il y a un moment où vous pourrez tout concilier. Ça veut dire que celui qui est mort, les Avot, et celui qui vit et est vivant, les Banim, les enfants, il y aurait quelqu'un qui pourrait les faire revivre et qui pourrait montrer au peuple juif quelle est l'évolution de chaque chose. Et comment toute l'histoire du peuple juif est le fruit d'une seule et même intention, et comment cette intention du Créateur a été vécue à travers l'histoire du peuple juif, comment chacun y a ajouté sa pierre, comment il y en a qui ont cassé la pierre, comment il y en a qui ont mis deux pierres, il y en a qui ont subtilisé les pierres, il y a eu tout. Comment faire vivre en harmonie cette histoire du peuple juif qui a l'air décousu, qui a l'air d'être quelque chose qui n'a pas de projet, qui est incohérent, comment est-ce qu'on peut le faire vivre? C'est Eliyahu Navi. Parce que Eliyahu Navi, même dans le pshat, même dans la réalité, il a sublimé la mort puisqu'il n'est jamais mort. C'est ça ce que veut dire Rashi. Quand Rashi dit Yaakov a pris en gage le vav du Eliyahu Navi. Pourquoi? Parce que le vav, c'est le chibur, c'est l'association des choses. Banim et Avot, faire vivre les pères et les fils ensemble et leur montrer qu'ils mènent la même histoire et que Akadosh Baruch Hu a besoin de cette histoire dans son projet, le Vav, c'est ce qu'on appelle le Chibour. En français, on dit l'association. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, plus on creuse et plus ça est difficile de savoir qu'est-ce que nous on veut. Parce qu'au niveau du pshat, je sais ce que je veux. Je veux ci, je veux ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais si on essaie de creuser, on va être obligé de trouver à un autre niveau ce qu'on veut vraiment. Et c'est ça ce qu'on appelle Etchehava Nafshi. Nafshi, ce n'est pas au niveau du pshat. Au niveau du pshat, sans voir à quelqu'un, qu'est-ce qu'il veut ici. Mais au niveau plus profond, peut-être qu'en vérité, qu'est-ce qu'il veut lui, là, il choisit. Il a tout à fait d'autres besoins. Ses besoins peuvent éclore dans un anachronisme. Ils peuvent venir n'importe comment, de façon qu'on n'arrive pas à contrôler. Ou alors, on peut creuser les choses et essayer de se rendre compte de quels sont les vrais besoins. Et là, on va revenir au point de départ. Quels sont les vrais besoins? Ce sont ceux qui viennent en solution. Parce que moi-même, j'ai éprouvé que ce sont les besoins vrais. S'ils ne viennent pas en solution, ça s'appelle pas Bikashtif. On va essayer de lire le verset. Al Mishkavi Balelot. Lorsque je suis la nuit sur mon lit, Bikashti et Chavanapshi. Là, je ressens le vrai besoin. Ça veut dire que dans la galoute, dans la difficulté, c'est là où tu vas commencer à avoir des besoins qui vont t'amener vers la lumière. Comme on a dit, Vaïrev, Vaïboker, d'abord le soir et ensuite le matin. Et chez Ahava Nafshi. Pourquoi ça s'appelle Ahava Nafshi? Parce que c'est pas moi en vérité. C'est plus que moi. C'est moi à un autre niveau. Mikashti v'lo metzativ. On le trouve pas tout de suite. Akumana va sauver Bayan. Je dois me lever, va sauver, je vais chercher dans la ville. Ça veut dire que je vais aller prendre des idées par ici, des idées par là. Je vais faire tout un amalgame, je vais me produire toute une culture. Je vais aller chercher tout un enseignement. Bashvakim ou Barchovot, sur les passes des marchés dans les rues. Avaksha et Shavanafshi, Mikashti v'lo metzativ. Metzaouni Hashomri va sauver Bayan. On va toujours trouver des repères. Moshe et Aaron, ce sont les repères qui ont été placés par Akadosh Baruch Hu pour que le peuple juif ait ses repères. Ces Shomrim, ça veut dire qu'il est sûr que je dois pouvoir retrouver ces vérités. Kimat Shavartimem, ça veut dire de peu, je les aurais manqués, mais je les ai trouvés. Ad Shematzati. Ça c'est le jour après la nuit. Ça veut dire la reconstruction du Beth Amikdash à partir du désert ou la reconstruction du troisième Beth Amikdash à partir de la fin des Galouyot. Ça veut dire si quelqu'un demande pourquoi avoir besoin de la Galout pour la Yeshua, on va demander pire que ça maintenant. Pourquoi la vérité en hébreu s'appelle Yeshua? C'est quand même incroyable. Tu ne peux pas me donner une vérité qui ne soit pas une Yeshua. Non, on ne peut pas. La vérité, c'est une Yeshua. C'est une délivrance. En quoi c'est une délivrance? C'est que c'est la façon que j'ai eue de résoudre des contradictions, de résoudre des problèmes qui a donné à la vérité sa possibilité d'être une vérité. La plupart du temps, nous nous occultons la galoute face à la Yeshua. Ça veut dire quoi? La galoute, ça a fait, on a entériné, il y en a assez, ça y est, on connaît, maintenant, on veut la Yeshua. La preuve qu'on ne prend pas au sérieux la galoute, c'est qu'on ne veut pas la Yeshua. Pourquoi on ne la veut pas? Parce que ce besoin de ce qu'on nous demande un jour, si pita la Yeshua, est-ce que tu as vraiment attendu ça? On n'a pas essayé de creuser pour voir si on a vraiment attendu ça. On s'est contenté d'autres besoins qu'on a satisfait en attendant parce que tout le monde est obligé de satisfaire plein de choses. Parce que c'est ça l'évolution de la vie, on va satisfaire des choses, on va évoluer, mais pas dans les vrais besoins. Un homme doit se sentir mal dans sa peau. Il doit sentir que sa neshama est engoncée, qu'il ne voit pas les choses clairement. Et son vrai besoin, c'est d'être vrai. Au moment où quelqu'un sent qu'il est vrai, c'est ça sa Yeshua. Un homme doit avoir besoin de ça. Il faut qu'il creuse jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il a besoin de ça. Nous, quand on a des tsarot, quand on a des problèmes, à ce moment-là, on a des vrais besoins de Yeshua. Mais attention, même ça, ce ne sont pas des vrais besoins. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés par le problème. Au moment où on résout le problème, c'est la Yeshua du problème, mais ce n'est pas la Yeshua de la personne. La Yeshua de la personne est possible qu'à partir du moment où il se rend compte qu'au fond, il n'est satisfait par rien. Alors à ce moment-là, il commence à se forger un système dans lequel il n'aura pas toujours la possibilité d'être satisfait parce qu'il ne pourra pas l'appliquer. Mais il aura besoin de ce système-là. Et on ne lui demande pas plus. On demande à celui qui est dans la galoute d'avoir besoin de la Yeshua. Parce que sinon, ce n'est pas une Yeshua. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous, on n'arrive pas à comprendre pourquoi, lorsque la Torah nous dit que les 4 cinquièmes des enfants d'Israël sont morts en Égypte, ce n'est pas qu'en vérité on ne les voulait pas, c'est qu'eux ne voulaient pas. Ça veut dire quoi? Si on osait, on dirait qu'ils ne sont même pas morts en Égypte en vérité. Ils sont devenus des Égyptiens. Finalement, ils sont morts en Égypte. Alors peut-être qu'ils sont morts tout de suite. Ok, d'accord, on a liquidé le cas. Mais le vrai problème là-dedans n'est pas s'ils sont morts ou ils ne sont pas morts. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu ce besoin de sortir. Ils n'ont pas senti la Yeshua. On est obligé, et Pessah, c'est l'occasion pour un homme, de se rendre compte lorsqu'on lui dit « Matril bignout ou Messahim bichouar », tu dois commencer par voir ce qui était mauvais, pour arriver à ce qui était bien, de sentir le besoin de la chose. Lorsque nous on dit Chayav Adam Lirot et Tatsmo, qu'il est obligé de se considérer comme étant sorti d'Égypte. On a déjà dit, c'est pas que tu dois croire que tu as 3000 ans et que ceci et que cela. C'est que l'événement de la sortie d'Égypte, sa résurgence, elle t'interpelle puisque tu es un juif et tes ancêtres sont sortis d'Égypte. C'est pas seulement eux qui sont sortis d'Égypte. C'est toute la résurgence qu'il y a vis-à-vis de la personne elle-même. Bénéficier de la sortie d'Égypte, de se croire sortie d'Égypte, ça veut dire utiliser la sortie d'Égypte. En quoi tu utilises la sortie d'Égypte, toi? On ne peut utiliser cette sortie que si on a envie de sortir de quelque chose. Si on n'a pas envie de sortir de quelque chose, alors on n'a rien à utiliser. Ce malaise-là, il est créatif au point qu'il doit rendre l'homme meilleur. Parce qu'il y a deux sortes de malaise. Il y a le malaise de celui qui se sent mal. Il est mal dans sa peau, donc il est méchant avec tout le monde. Et à celui qui se sent mal dans sa peau, et que parce qu'il se sent mal dans la peau, il est gentil avec tout le monde. Il y a une grande différence. Le premier, c'est qu'il aspire juste à être bien dans sa peau. Alors que l'autre, il aspire à être hors de sa peau. À celui, il n'est pas agressif, il n'est pas méchant. Parce que ce qu'il recherche, c'est autre chose. Donc au contraire, il n'est pas difficile vis-à-vis d'autrui. Ça, il faut savoir que c'est une Gemara dans le traité de Ta'anit. La Gemara raconte que il est arrivé une époque où il n'y avait pas de pluie. Alors on a été gozer, c'est-à-dire que les Chachamim ont institué, comme c'est marqué dans Shulchan Aruch, qu'à partir de telle et telle période, on fait un jeûne, tout le monde jeûne, pour qu'il y ait la pluie. Avar Rabbi Eliezer l'Ifna Teva. Chacun il avait prié, il n'y avait pas de pluie, il est passé. Et on l'a mis Chazan, il a commencé à prier, il a eu la pluie tout de suite. On a demandé au Chacham, pourquoi lui et pas les autres? Pas parce qu'il est meilleur que les autres, parce qu'il est plus intelligent que les autres, parce qu'il est plus tzadik que les autres. Alors on a dit pourquoi? Parce que Over al-Midotav. Over al-Midotav, c'est difficilement traduisible. Mais ça veut dire qu'il ne tient pas compte de ses besoins. Et quelqu'un qui a un besoin à autre avant lui, il fait passer l'autre avant. Over al-Midotav. Ses midot, ses besoins, son caractère, il arrive à le dépasser. Alors puisque lui aussi dépasse, alors le monde aussi dépasse, tu ne mérites pas, tu reçois aussi. Comment est-ce que quelqu'un peut arriver à ça? Il est over al-Midotav. Parce qu'il se sent bien. Parce qu'il espère autre chose. Donc, les petits besoins de la vie, ça ne dérange pas de faire passer les autres avant, puisque lui, c'est pas ça qu'il cherche. Vis-à-vis de ça, il se sent assez bien, parce qu'il n'en a pas besoin. Là, avoir à la midot, être capable de ne pas tenir à ce qui est à soi, c'est parce qu'on a compris qu'en vérité, c'est inutile. C'est là pour amener autre chose. Puisque c'est amené pour autre chose, qu'est-ce que tu en as besoin? Ça veut dire qu'on peut arriver à vivre et à utiliser tous les moyens de la vie. Mais en comprenant que ces moyens-là sont là pour qu'on arrive à notre problème. Et s'ils sont là pour qu'on arrive à une autre problématique, alors on n'a pas de difficulté de s'arranger ni avec les uns, ni avec les autres, ni avec... Plus le but est clair, et moins on attache d'importance aux moyens. Pire que ça, on se dit que puisque de toute façon on a créé ses besoins pour les satisfaire, donc il n'a aucun intérêt. Donc c'est pas la peine de répéter à chacun sans qu'on en a besoin. En vérité, on a besoin d'autre chose. Ça, c'est ce qui est marqué ici. C'est pour ça qu'après, vient le verset. Sauter un verset, puisqu'on l'a déjà fait souvent. Il se répète encore, il est en tout trois fois. Ishbat yetrem. On a déjà parlé de ce verset-là, le problème de la Goula. Chaque fois qu'on va parler de l'exil, on parlera de nouveau, c'est les trois serments qu'Akadosh Baruch Hu a fait jure au peuple juif et a fait jure aux nations, qu'il ne rentrerait pas en Eretz Israël par la force, qu'il ne forcerait pas la galoute. Bon, on a déjà fait ça. Mizot Olamina Midbar. Maintenant, on peut comprendre ce verset. Mizot Olam Min HaMidbar. Qui c'est qui monte du désert? Ça, c'est Dieu qui parle. Que Timrot Hashan. Timrot Hashan, c'est des nuées de fumée qui se voient loin. Mekuteret, mor ou levona. Chargé de mor ou levona. Mor ou levona, ce sont des parfums de l'encens. Mikolav Katrochel, plus que Avkatrochel, les parfums qui se trouvent dans la boutique du parfumeur. Quoi il s'agit? Il s'agit du peuple juif qui est né dans le désert et qui arrive en Eretz Israël. Alors Akadosh Baruch Hu dit, mise entre la minamidba, regardez ce qui vient du désert. Devant les Chachaim, pourquoi du désert? Parce que le peuple juif s'est construit seul. Maintenant vous pouvez comprendre ce que ça veut dire seul. Seul, ça veut dire que je prends des autres, je cherche la vérité où elle est, mais c'est ma vérité à moi. Devant ces choses-là, je suis seul, Minamidba. Ceux qui ont grandi vraiment, ils ont grandi du désert. Ils ont grandi dans la solitude. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas appris d'autrui. Ça veut dire que je n'ai pas appris du comportement de l'autre. Ça veut dire que je n'ai pas appris de la Torah. Au contraire, j'ai appris de tout. Mais je me suis construit seul. Ça, c'est une donnée du désert. Le désert, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être entouré d'autres. Ça veut dire que tu te construis seul. C'est pour ça que le Midrash donne comme exemple Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, c'est le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, qui a grandi toute sa jeunesse dans une caverne. Il était pendant 13 ans dans une caverne. Il a réussi à assimiler toute la Torah. Ça veut dire que quelqu'un grandit finalement tout seul. Tu dis, mais tout ce que tu as, c'est des autres. Pire que ça, même le type de raisonnement, même j'emprunte toujours à quelqu'un. On a dit une fois, on ne pense que par machal, par métaphore, par parabole. Je ne peux pas faire autre chose que de rapprocher, c'est vrai. Ça, c'est dans le type du raisonnement. Ça, c'est dans la façon qu'on a de procéder. Mais à partir de quand une vérité, c'est quelque chose qui s'impose à moi, à partir du moment où ça résout mon problème, à partir du moment où moi, je l'ai élaboré à partir des contradictions que j'avais moi, à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une amie. Sûrement la question. C'est tout. Bon, on vous souhaite un Chag Sameach. Le prochain cours, ce sera le lundi 12 mai. Ça fait de longues vacances.
Le problème, c'est est-ce que l'ancien de Yeshua intègre l'obligation d'utiliser aux limites de nos possibilités, j'étais en limite, pas seulement d'utiliser, mais d'utiliser aux limites de nos possibilités, les possibilités de la vie matérielle qui nous sont offertes.
Absolument.
Et c'est-à-dire de vivre le plus longtemps possible que l'on peut. Si je veux vivre le plus longtemps possible que je veux, c'est mieux d'être dans un appartement confortable que dans un autobus parce que j'aurai plus de chance de vivre plus vieux.
Absolument.
Alors, c'est là qu'il y a un danger dans le vocabulaire qui risque de nous faire croire que la rochniout, c'est quelque chose qui serait une sorte de déconnexion de déconnexion du matériel à l'égard du matériel dans une sorte d'ascèse complètement débile, et ça c'est pas juste.
Pas du tout. Moi je n'ai pas parlé de ça du tout, au contraire.
Voilà. Alors,
c'est ça que j'ai dit, que le goy,
le langage en français,
ça vient milachon gevia, qui veut dire le corps, c'est que chez lui c'est deux notions différentes. Chez nous c'est une notion qui est la même.
C'est ça.
Donc ça c'est sûr. Maintenant je vais vous dire, tout le problème à partir de combien on court et combien de temps on court. Parce que quelquefois, la course prend plus de temps
que le
bénéfice de la course. Alors, si de toute façon tu sais que tu n'as pas le temps d'arriver, il vaut mieux courir après quelque chose de plus simple aussi souvent. Donc, d'essayer de mêler les deux, il faut le faire aussi intelligemment. Il ne faut pas le faire...
Mais il faut le faire vraiment intelligemment, il faut être complète.
Absolument. Absolument. Mais... ça ne va pas du tout dans le sens, dans un sens contraire à ça. Ouais.
La nuit de Pessah, la sortie d'Égypte, ça ne fait pas l'Aïdash, une journée qui était ni nuit, ni jour.
Je vais vous dire. Il faut croire que non, puisque la Gemara arrive à la conclusion que la vraie délivrance est seulement à partir du matin. Regardez la Gemara, comment sont les traités de Brachot. La Gemara arrive à la conclusion que la vraie délivrance était seulement à partir du matin. Bien que ça a commencé à minuit, mais la vraie délivrance à partir du matin.
À partir du
matin. Pas à partir du soir. Ce qui est marqué Hayom, Atem Yotzim. La préparation du jour. Même là.
Mais c'est en Galoute que se prépare la Goula.
Non, c'est que la Goula,
elle est le moteur de la,
c'est la, la Goula, c'est la résolution de la Galoute. C'est pour ça que j'ai demandé la question. Pourquoi une vérité s'appelle Yeshua? Pourquoi une vie normale, on appelle ça Yeshua, délivrance? Pourquoi? Parce que la vérité, c'est une délivrance de quelque chose. Si ça n'est pas une délivrance, c'est pas la vérité. C'est quelque chose d'extérieur.
Mais c'est quelque chose qu'on vous a voulu donner ontologiquement, un moyen ontologique de l'homme pour les Israël de raison.
C'est pire que ça. C'est que toute la vie dans l'Olam Hazeh ne peut être vécue que comme ça. C'est pas seulement pour le Sroute. C'est que c'est la seule manière pour nous de pouvoir absorber les choses.
Pour pouvoir...
Je ne peux intégrer quelque chose que si ça répand chez moi un besoin. Tu n'as pas de besoin, tu pourrais l'intégrer.
Est-ce que c'est pour pouvoir vivre intégralement le principe sortant, c'est même à la chaleur
qui est là? Bon, ça c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, ce dont je parle, ça n'est pas la différence entre la marche et le massé. C'est encore autre chose. Dans la marche et le massé, c'est aussi comme ça. Quand est-ce que le massé m'appartient? Ou quand la marche m'appartient? Quand je le réalise moi-même.
C'est aussi l'application de la réclamation.
C'est vrai. Mais ici, on ne parle pas de la pensée et de l'action. C'est autre chose.
Mais c'est l'action qui...
Dans la pensée et l'action, c'est le même processus, c'est vrai.
C'est l'action qui est le socle de marche à
de marche à. Ça veut dire que l'action, en vérité, ça n'est qu'une marche à voir. Sinon, c'est la mienne. Ça, on a parlé une autre fois. Ça, on ne peut pas en parler maintenant. C'est la même démarche, mais pas dans le même sujet. C'est vrai que c'est comme ça aussi. Ok.
Le 14 avril, vous avez...